Bonjour. Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard-Roche que je remplace aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Grand Ciel à Dreux, Madame Emmeline Louzeau, candidate aux élections législatives de 2022 dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire, pour représenter le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Bonjour Madame.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. L'actualité, c'est ce dont on parle aujourd'hui et encore pendant quelques semaines, il est question d'élection. On ne vous connaît pas très bien, je vais donc vous demander de vous présenter en décrivant votre parcours qui vous amène aujourd'hui à représenter Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire avec comme suppléant Monsieur François Duez.
Tout à fait. Alors, je vais essayer d'être succincte. J'ai travaillé pendant près de 10 ans donc dans l'industrie et plus spécifiquement dans la formation professionnelle et notamment par apprentissage. Donc j'étais alors donc au CFA de l'industrie dont une antenne se situe à Châteaudun et j'ai du coup découvert l'Eure-et-Loire par le biais de ce travail-là. Et j'ai été amenée pendant ces années à côtoyer beaucoup d'industriels et notamment beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont très représentées dans le département et puis surtout sur le bassin de Douai. Et au fur et à mesure de mes constatations et de mes discussions avec ces différents chefs d'entreprise qui ont tous des parcours très intéressants et notamment des parcours d'entreprise très très intéressants à écouter. Ce sont souvent des entreprises héritées familialement avec une véritable transmission de père en fils. À mesure que je les ai écoutées, ces personnes-là, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils faisaient face à un certain nombre de problématiques et notamment celle de la formation. Et au fur et à mesure je dirais, mon évolution dans ce métier-là, j'ai travaillé notamment beaucoup avec les partenaires locaux, la mission locale, avec l'INSTEP de Dreux, pour n'en citer que quelques-uns. La liste est loin d'être exhaustive. Eh bien, j'ai voulu, je dirais, avoir des actions plus concrètes, mener des actions plus concrètes pour défendre et développer la formation sur le territoire, notamment Drouet. Alors c'est très succinct. Il y a plein d'étapes hein, qui se sont déroulées, mais c'est une des raisons, une des portes d'entrée qui m'a notamment fait adhérer à Debout la France et puis accompagner Nicolas Dupont-Aignan dans son programme et dans ses campagnes.
Parce que d'habitude, dans ses arguments et dans ses thèmes, ça, la formation, c'est pas ce qu'il emploie le plus, c'est pas ce qu'il détaille le plus. Qu'est-ce qui vous a fait vous croiser, quoi, dans votre cheminement, dans vos idées et avec le discours habituel de Nicolas Dupont-Aignan?
Alors effectivement, comme je le disais, c'est un des points d'entrée. La formation professionnelle en tant que telle ne fait pas partie du cœur des sujets développés pour cette campagne, notamment présidentielle qui vient d'avoir lieu, et puis pour le programme. Mais il en fait partie, le sujet de la formation et puis du développement finalement de l'industrie et du produire en France. Et c'est ce lien-là, en fait, que j'ai fait moi-même étant plus jeune, entre guillemets. J'ai 34 ans, pour information, je viens de les avoir cette semaine. Et, voilà, ça a été le lien que moi j'ai fait entre, finalement, ce que propose Nicolas Dupont-Aignan pour la France, son projet pour la France globale. Et moi, finalement, mes convictions et mes envies sur le territoire d'action, voilà, pour développer, je dirais, plus que la formation d'ailleurs, mais c'est la pérennité des emplois.
Si je regarde Wikipédia, j'observe le parcours de Nicolas Dupont-Aignan. Il vient du RPR, qui devient UMP. Il fonde en 2008 le parti Debout la République, qui devient Debout la France en 2014. Il se positionne à droite de la droite, presque à l'extrême droite qu'il soutient au deuxième tour des présidentielles 2017. Après la défaite de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan reprend son indépendance, mais ses idées restent très proches du Rassemblement national. Est-ce que vous partagez tout ça?
Alors tout ça, ça dépend de ce qu'on met derrière tout ça.
Oui,
C'est
mais
difficile de répondre.
ce qu'il a l'habitude de développer, hein, si on peut parler de ses thèmes et de son discours, si vous voulez,
Alors
mais.
si vous ciblez la question, effectivement, je pourrais peut-être répondre un petit peu plus précisément. Mais déjà, pour amorcer un début de réponse, de manière générale, la politique et puis le fait d'avoir des convictions, hein, je parle de politique au sens intellectuel du terme, c'est une réflexion permanente. C'est en tout cas mon point de vue et c'est mon expérience. C'est une réflexion permanente et c'est un débat d'abord avec soi-même. Bon, je sors peut-être un peu des sentiers battus, mais vous allez voir ma réflexion. Une idée politique ou des idées politiques, elles ne sont à mon sens jamais arrêtées puisqu'elles ne font que suivre le cours justement et l'évolution des mœurs de la société, des courants de pensée qui sont en vogue et on ne fait que rebondir sur les avis des uns des autres et évoluer. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez Nicolas Dupont-Aignan et à Debout la France, c'est que justement, on a un socle de valeurs qu'il défend depuis très très longtemps. Vous avez fait l'historique et c'est très très intéressant de le faire, c'est très judicieux. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas figé dans le marbre. Il se revendique, on se revendique héritier du gaullisme. Et c'est, je dirais, l'essence même, en fait, hein, de l'esprit du gaullisme. C'est de savoir évoluer, d'être dans la modernité, dans son temps, d'être contemporain, mais en ayant des valeurs ancrées qui sont fortes et qui restent fermes.
Sur le plan du gaullisme social, je suis d'accord, on sait, il en vient, hein, du RPR, puis de l'UMP, donc c'est une certaine fidélité. Mais dans sa vie politique, on l'a vu s'allier, se désallier, se fâcher, se refâcher, avec des personnes qui n'avaient pas toujours la même idée du gaullisme que lui. Est-ce que ça. Son évolution de son comportement politique, et on pourrait pas la confondre avec une certaine versatilité.
Une versatilité qui est nécessaire, comme je le disais là à l'instant, à toute vie politique, parce que si l'on reste.
Versatilité ou évolution?
Je pense que c'est avant tout une évolution, puisque c'est une succession d'événements et de réflexions qui ne font. En fait, je résume souvent les choses en disant que nous ne sommes, en tant qu'êtres humains, et pas forcément qu'en tant qu'êtres politiques, nous ne sommes que la somme de nos expériences à tout âge et à toute époque. Nous ne sommes finalement que la résultante à l'instant T de ce qui s'est passé avant et de ce qui en découle. Donc, loin de moi l'idée de philosopher hein, et d'extrapoler, mais
Mais si, pourquoi pas?
l'idée,
La
c'est un peu
politique, c'est
ça.
pas ce qui est marqué sur une charte,
Alors, on a l'habitude
hein?
d'être un
Non, au
peu
contraire.
concret, donc c'est vrai que là, moi j'aime bien, je philosophe beaucoup. Bon, c'est aussi parce que c'est quelque chose que j'aime faire particulièrement, c'est de ne pas parler que de politique et de stratégie et voilà et toujours de pions à placer sur un échiquier, mais de voir les choses un petit peu plus larges. Et donc versatilité, évolution. En tout cas, Nicolas Dupont-Aignan. Depuis l'âge que moi j'ai de le suivre, hein, parce que je reste jeune finalement politique, pour moi c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et qui eh bien, vit justement la politique en tant que représentant d'un parti, qu'il a créé tout seul, qu'il défend depuis lors en étant fermement justement campé sur ses positions et qui n'a jamais failli. Et pour moi, alors versatilité, tout dépend de ce que vous mettez du coup derrière ce terme,
Non, je n'ai pas dit qu'il était versatile, j'ai
mais
dit qu'on pourrait confondre son évolution avec la versatilité.
pour moi, ça reste une évolution. Et puis, parce que surtout, une personne, quelle qu'elle soit politique ou un être humain, en tout cas en général, que de rester figé et d'être un peu trop borné, je pense que c'est pas la bonne chose à faire en politique. Donc moi, oui, je soutiens l'ensemble des décisions et des actions de Nicolas Dupont-Aignan, sinon je serais pas engagée
Oui,
en
bien
politique.
sûr. Et comment vous expliquez que, effectivement, si on devait parler de la fidélité de quelqu'un en politique, on pourrait, devrait mettre Nicolas Dupont-Aignan parmi les premiers. On ne peut pas lui reprocher ça. À côté de ça, les scores qu'il fait sont pas toujours à la hauteur de ses attentes, sont rarement à la hauteur de ses attentes. Et même, quelquefois, quand il veut se présenter, il n'obtient pas l'approbation de ses pairs, il n'a pas les signatures. Comment on peut interpréter ça? Parce que...
Alors là, les signatures, on les obtient. Hein. C'est toujours un combat, effectivement, de tous les jours quand on est sur cette période de recherche des signatures. Nous ne sommes pas les seuls à
Ah
avoir
bah
des
bien sûr, hein,
difficultés
bien sûr.
à aller courir après les signatures. Mais l'explication que moi, je peux avoir, elle n'est, ça m'appartient. Hein. Je ne me prononce pas à la place des autres. Mais je pense que justement, quand on est prêt à ne pas sacrifier certains idéaux que l'on a pour une France, pour l'idée de la France qu'on a en tête, quand on n'est pas prêt à se vendre ou à aller à l'encontre justement des positions qu'on a prises au départ, eh bien effectivement, il peut arriver que les résultats qu'on obtient ne soit pas à la hauteur de ce qu'on pourrait escompter. Et si je suis un peu ma logique jusqu'au bout, c'est la preuve que finalement l'engagement de Nicolas Dupont-Aignan n'est jamais, il est indéfectible, parce que malgré des résultats qu'on peut peut-être effectivement qualifier de peut-être un petit peu décevant par rapport aux attentes qu'on peut avoir, il est toujours dans le paysage politique. Et ça, je pense que
Oui, ça a
la
lieu
longévité,
depuis longtemps,
c'est
effectivement.
la meilleure
Oui,
des preuves
oui,
d'engagement.
oui. Bon, parmi les grands thèmes de Nicolas Dupont-Aignan, donc le gaullisme social, il se dit gaulliste social, on vient d'en parler. Il est aussi eurosceptique modéré, il se dit républicain, souverainiste et nationaliste. Ce qui m'ennuie un petit peu, pourrait ennuyer éventuellement des futurs électeurs, il s'est regroupé avec les patriotes de Florian Philippot, qui lui est nettement moins modéré. Il est pour le Frexit, il est pour la sortie de l'OTAN, etc., etc., etc. Comment on se retrouve dans cette idéologie un petit peu partagée?
Alors, effectivement, le ralliement aux patriotes est quelque chose qui provoque des discussions, effectivement, au sein du parti, de la famille, je dirais, de Debout la France. Si vous me demandez ma position, c'est un petit peu aussi
Oui, je vous la demande, c'est ce qui
ce que je
m'intéresse.
disais tout à l'heure. Ça nourrit en tout cas une réflexion profonde sur les réels besoins aujourd'hui qu'on a pour reconstruire la France que nous on veut pour demain, qui est une France forte, qui est une France qui va être plus indépendante qu'elle ne l'est, bien plus indépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est la question des concessions qu'on est effectivement prêt à faire. Sortie de l'Europe ou pas sortie de l'Europe, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, le ralliement, ou en tout cas l'association effectivement avec avec les patriotes, c'est aussi et surtout du jeu politique. C'est-à-dire que c'est la manière dont se déroule une campagne, quelle qu'elle soit. Donc on a des choix à faire. Et personnellement, je pense que une Europe retravaillée est nécessaire. Après, sous quelle forme? Moi, je suis avant tout Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est mon engagement premier. Je suis Nicolas sur une Europe qui doit être refondée, ou en tout cas qui doit être retravaillée, comme je le disais. S'il est nécessaire d'en sortir, ça sera un référendum, ça sera un choix des Français, et ça ne sera pas que le choix d'Émilie Luzot ou d'un des candidats.
Oui, mais une Europe retravaillée, c'est quoi? C'est retravaillée dans quel sens?
Alors, c'est retravailler.
Qu'est-ce qui gêne Dupont-Aignan dans cette Europe?
Alors, Dupont-Aignan, et puis ses fidèles, ses adhérents, hein,
Oui.
ses fidèles engagés dans le parti. Alors, encore une fois, je ne me permets pas de me prononcer à la place des autres, mais moi, personnellement, c'est de mes jeunes observations, mais qui sont quand même nourries depuis un certain temps de lecture et de beaucoup de curiosité, la façon dont Par exemple, la politique agricole commune, alors je ne pense pas qu'on aura peut-être le temps de développer ça, mais
Si, on a le temps.
la façon dont la PAC a été pensée au départ et la façon dont elle a évolué finalement pour arriver à aujourd'hui quelque chose qui est assez capillotracté, si vous me passez le terme. Donc,
Capillotracté.
capillotracté, oui. On a en plus spécifiquement en ce moment un contexte social, économico-social très compliqué à vivre. Et ça rajoute en fait un prisme, de vision finalement où les personnes sont obligées de se poser vraiment des questions quant à l'inflation. Quand on le constate dans le panier, dans le panier moyen et puis dans son pouvoir d'achat, c'est là où on commence à se gratter la tête. Sauf que, encore une fois, ça n'est que la résultante d'une succession d'actions qui ont été faites depuis quand même quelques années. Et voilà, ça n'arrive pas par hasard. Donc, je ne vais pas développer là, on ne va pas retravailler la PAC aujourd'hui en
Non,
2 heures de
non,
rencontre, hein, mais ça fait partie des sujets, par exemple, si vous avez lu les 100 mesures, parce qu'on a condensé pour rendre les choses lisibles et claires. On a condensé notamment dans le livret des 100 mesures qui est disponible sur le site, hein,
pour
de Debout la
s'entendre
France.
avec
Voilà.
les patriotes.
Voilà.
Et c'est
Donc
ça,
ça,
oui,
c'est quelque
sans
chose
mesure commune.
que vous pouvez tout à fait
D'accord, et qu'on peut trouver sur Internet.
aller creuser.
On peut parler écologie, si vous voulez. Tous les candidats sont teintés en vert, subitement. Ils se sont découverts des sentiments écologiques divers et variés. On n'a jamais entendu beaucoup parler de M. Nicolas Dupont-Aignan de sa sensibilité écologique. Ça n'a pas l'air d'être une grande priorité. Il en parle, parce que tout le monde en parle. Tout le monde est obligé d'en parler. Maintenant, je pense que le Français, le citoyen, il est attaché à ça. Il a envie qu'on en parle et qu'on fasse quelque chose. Quels sont dans vos 100, si Monsieur Dupont-Aignan n'est pas très très attaché à l'urgence climatique, d'après ses discours, toujours. Je ne sais pas ce qu'il pense réellement. Florian Philippot, c'est à peu près la même chose. Les gens attendent des décisions et des projets et des idées. Qu'est-ce que
Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, pour répondre sur la partie où vous dites on n'entend pas tellement, je me permets juste de préciser avant de répondre à la question. Nicolas Dupont-Aignan est très très présent sur les réseaux sociaux, notamment. Donc les discours qu'il peut tenir sur la question écologique et encore une fois. Il y a plein de sujets derrière. La question est largement traitée par Nicolas Dupont-Aignan, mais pas forcément effectivement dans le mass média. Et puis ses réponses, en tout cas, ne sont pas forcément véhiculées, je dirais, aux heures de pointe d'antenne. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des difficultés à l'entendre. Mais il est très présent sur la scène écologique, enfin sur la question écologique, notamment. Pour du coup parler un petit peu aussi local, hein, parce qu'il faut aussi centrer le sujet, c'est un peu l'objectif de ma venue. Sur la question des éoliennes, on a un parti pris hein, qui est clair et affiché sur la question des éoliennes, parce que, alors j'élargis à Audrouet bien sûr, mais en Eure-et-Loir, sur tout le territoire Beauceron, la grande plaine finalement qui redescend jusqu'à toute la région centre, Orléans, etc., on est envahi d'éoliennes et c'est quelque chose qui est très très compliqué à gérer, à comprendre. C'est qu'on voit la partie effectivement énergie propre, mais on ne voit pas la partie sous-sol. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg, hein, pour faire une métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. Et ça, il en parle, donc faut
parce que
aller.
c'est vraiment un iceberg, il y a beaucoup de choses en dessous.
Bien sûr, bien
Oui.
sûr. Et donc, c'est très très important. Et en fait, je vous fais une réponse très très concrète. On échange très très souvent sur ce type de sujet. Nous avons fait des tables rondes à l'occasion de la préparation de la campagne des présidentielles. Donc là, je remonte un peu dans le temps. Hein, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on a travaillé, on s'est rassemblés donc avec l'ensemble des adhérents pour travailler sur ces thèmes-là de campagne. Et je faisais partie spécifiquement justement la cohorte. Écolo, pardon, et nous avons abordé la question en profondeur notamment des éoliennes. Donc, je pense peut-être à aller creuser encore une fois sur le site et puis sur sa présence YouTube. On a beaucoup de vidéos YouTube, Facebook. Voilà.
Mais pourquoi c'est pas un discours qu'il emploie, par exemple, dans ses prestations télévisées pendant la campagne? Les nouvelles énergies, pour reprendre,
Oui, pour
hein,
élargir un peu.
pour élargir un petit peu, c'est quand même une préoccupation d'un citoyen normal.
Tout à fait.
Il est intéressé par savoir ce qu'on fait des éoliennes, ce qu'on fait du pétrole,
Oui.
ce qu'on fait des piles, comment elles sont fabriquées et par qui, comment elles arrivent. Est-ce que c'est pas, quand on parle des voitures hybrides et des voitures électriques, si on s'intéresse un petit peu à savoir comment c'est fait, où c'est fait et par qui,
Absolument.
il y a de quoi s'inquiéter un petit peu. Donc, mais ça, ce sont des préoccupations de tous les jours du citoyen ordinaire qui s'occupe un petit peu de son environnement. Et c'est quand même une majorité. Bien sûr, il s'occupe bien sûr en majorité de la fin du mois, mais il y a aussi l'environnement, le paysage dans lequel il vit, surtout ici à la campagne. Si on habite là, il n'y a pas toujours des raisons environnementales, mais c'est un choix qu'on fait.
Tout à fait.
Hein, on a un environnement, on respire un air, on boit de l'eau et on a quand même envie que ce soit de qualité. C'est une préoccupation importante de chaque citoyen. Donc je m'étonne quand j'écoute assidûment les interventions chaque soir sur Antenne 2 de ne pas entendre tous les candidats, pas forcément Monsieur Dupont-Aignan, sauf les écologistes naturellement, qui en parlent que de ça, qui parlent pas que de ça, mais presque, de ne pas l'entendre parler de ces questions écologiques qui interrogent les Français.
Alors, j'ai envie de vous poser la question dans l'autre sens. Parce que vous parliez spécifiquement de pendant la campagne, pourquoi n'a-t-il pas finalement mis ce sujet sur la table? Puisque vous dites justement que vous êtes assidu, vous allez pouvoir répondre sur l'ensemble des interventions qui lui ont été proposées, très minutées, très timées, pardon pour l'anglicisme,
Oui.
sur notamment les grandes chaînes. À quel moment l'avez-vous vu être questionné sur ces sujets-là?
Mais dans les interventions télévisées du soir, il n'est pas questionné, il parle. Il
Non,
n'y a
mais
pas de question.
vous parliez là pendant la campagne
Oui,
présidentielle.
oui,
Voilà, donc
oui.
moi je répondais spécifiquement dans le cadre de la campagne présidentielle. Le fait qu'il n'ait pas l'espace, temps pour parler des sujets d'écologie est tout simplement dû au fait qu'il n'a pas l'occasion de se prononcer sur ces sujets d'écologie. Les questions
Non, je
systématiques
comprends
qu'on lui
bien.
posait
Oui.
étaient principalement liées à sa position vis-à-vis du Covid, du vaccin et même rengaine sur l'ensemble des chaînes en général. Ma réponse à cette question, c'est que tout simplement, on ne lui a pas laissé assez d'espace pendant la campagne pour traiter ces sujets-là. Sur la question de la formation, hein, dont on parlait tout à l'heure, et
Qui a
puis
l'air d'être votre cheval de
c'est
bataille.
mon cheval de bataille. On se positionne pas sur des élections législatives, je dirais, sans même en étant assez jeune, sans avoir un phare, en tout cas une lumière à suivre. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage pas, je dirais, à l'aveuglette ou parce que ça a l'air sympa.
Mais
Au contraire.
je vous ai pas, enfin, j'ai pas entendu tout à l'heure. Vous avez un passé éducatif dans l'éducation
Alors, j'étais
ou...
spécifiquement en charge de la mise en relation et de l'établissement des contrats d'apprentissage entre les entreprises industrielles et les candidats en recherche de formation industrielle. Donc, ça allait de la maintenance en passant par la mécanique de précision pour l'aéronautique, par exemple, mais aussi la chaudronnerie, la tuyauterie, qui sont des métiers très peu connus, finalement, très peu
Et très demandé.
plébiscités et énormément demandés. Et je vous le disais en préambule, hein, on a commencé par ça. Force est de constater aujourd'hui, là, sur le territoire, on a fait le forum de l'alternance. On a 720 offres, alors tous métiers confondus, restauration, etc., qui ne sont pas pourvues. Et je mettrai, moi, oui, un point d'honneur dans mon travail à aller travailler vraiment ces sujets-là pour proposer une vraie solution à chaque jeune ou moins jeune, d'ailleurs, en matière d'emploi, d'insertion dans la vie active, et puis de pérennité de l'emploi surtout.
Et que personne ne reste sans formation spécialisée, pour trouver un emploi le plus facile.
Absolument, et j'irai même plus loin, surtout que les formations soient adaptées aux besoins, puisque finalement, on est sur un marché avec une offre et une demande, comme absolument tout. C'est un raisonnement qui est très mathématique, et aujourd'hui, on a des instances avec lesquelles on travaille, qui ont, là, j'ai interrogé très récemment par la Fédération nationale de l'habillement, enfin voilà, il y a, et on sent ce besoin aujourd'hui, voilà, de pérenniser les métiers. On a des artisans, on a des commerçants, on a aussi des grandes entreprises, mais le tissu français, le maillage français d'entreprise, ce sont avant tout des TPE-PME, ce sont des artisans et des commerçants, et c'est effectivement, comme vous dites, un cheval de bataille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc moi, mes actions, elles seront notamment centrées
Pour
sur ces
retrouver une
sujets.
formation quasi diplômante, est-ce qu'un service civique ou un faux service militaire, mais civique, pourrait pas contribuer à rappeler et à réunir un certain nombre de personnels sans diplôme, qui est un petit peu dans le vague et sans avenir certain, parce que justement ils n'ont pas de formation spécifique, pas de diplôme. Est-ce que ça pourrait être une idée à creuser par qui que ce soit, c'est pas forcément par Debout la France.
Oui, pas forcément que par Debout la France. Alors, service civique ou peu importe, d'ailleurs, l'appellation qu'on lui donne. Je dis ça parce qu'il y a déjà beaucoup de dispositifs, et je pense notamment à Un jeune, une solution, qui sont en place, hein, sur le territoire. Et qui vont dans cette logique-là. Effectivement, il y a énormément de dispositifs d'ailleurs qui existent. Je vous parlais de mon travail avec la mission locale, l'INSTEP de Dreux, il y a quelques années. Tout ça fait partie, hein, du maillage finalement de l'insertion dans l'emploi. Donc service civique ou autre, mais oui, effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir une première approche avec le monde du travail et une phase de découverte. Surtout, c'est très important. Pour qu'un jeune fasse un choix, il faut d'abord qu'on lui propose quelque chose. Et c'est toute la
C'est toute la
subtilité de la logique.
subtilité de la logique.
Voilà.
Madame Emeline Louzeau, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour répondre à mes questions.
Merci à
Je
vous.
remercie également Roland Richard à la technique et je vous souhaite une excellente fin de journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Et bonne soirée.
Merci.